Alors, je vais faire un petit peu d'histoire de l'intelligence artificielle. C'est toujours intéressant, surtout pour les gens qui sont en humanité numérique, de regarder comment les choses en arrivent là où elles en sont aujourd'hui. Voilà. Et il y a un point nodal, un moment un peu de bascule important qui est en 2012. Alors, jusqu'à présent, les chercheurs en intelligence artificielle, en reconnaissance d'image, une sous-fraction de l'intelligence artificielle qui consiste à, quand on vous présente une image, savoir quel est l'objet qui est présent dans l'image. Pouvoir mettre un mot, un nom sur l'objet qui est présent dans l'image. Pour travailler à ça, ils avaient constitué une immense, pour l'époque, parce que banque d'images de 15 millions d'images étiquetées, donc où la réponse était connue. Et chaque équipe de recherche en intelligence artificielle faisait des taux d'essais et d'erreurs pour reconnaître. Et globalement, en 2012, les systèmes existants marchaient avec 27-30% de taux d'erreur. Voilà. Donc, ce qui est quand même pas mal, quoi. Voilà. Et arrive une conférence, donc la conférence de la vision par ordinateur, et donc tous les cadors du milieu étaient là dans la salle, et à un moment donné arrive un jeune homme, tout jeune, à peine adolescent, qui présente un projet complètement atypique qui consiste à reconnaître les images à partir d'un réseau de neurones et non pas à partir d'un thésaurus avec des mots, avec des choses comme ça. Juste faire tourner des machines à fond les gamelles pour faire de l'apprentissage. Et il dit, moi, mon résultat, c'est 17%. Il met d'un seul coup 10% dans la vue. Pourquoi ? Parce qu'il avait une énorme machine, parce qu'ils avaient fait tourner un algorithme pendant très longtemps pour entraîner la machine. Voilà. Donc, c'est un moment un peu de bascule où on voit revenir en tête l'IA dite connexionniste, celle par les réseaux de neurones, qui avait mis carrément de côté l'IA symbolique, celle des symboles. Alors, je vais essayer de vous expliquer un peu cette courte histoire de l'IA, mais qui a, depuis le début, été divisée en fait en deux groupes, qu'on revoit sur ce graphe-là. Ce graphe, c'est un graphe des citations des articles scientifiques. Vous lisez un article scientifique et vous citez les gens qui vous ont inspiré ou qui ont fait une partie de l'expérience, ou etc. Et on a deux groupes complètement séparés. Les symboliques se citent entre eux et les connexionnistes se citent entre eux. Et ce sont deux groupes réellement séparés, donc c'est une analyse de graphe des citations. Alors, le terme a été forgé en 1956 par John McCarthy, qui est un personnage important qu'on va revoir tout à l'heure. L'idée, c'est d'avoir une méthode qui manipule des objets sémantiques, c'est-à-dire quelque part que la machine comprendrait le sens d'un objet qui lui est présenté. Donc, dans l'idée derrière, penser, c'est structurer le monde en concepts. Faire émerger des concepts dans le monde, c'est ça qui veut dire penser. Voilà. Et donc, on a des concepts qui s'interpénètrent, qui s'opposent, etc., etc. Avant, on utilisait ce qu'on appelait le modèle cybernétique, c'est-à-dire l'idée que, en fait, le penser, c'est être capable d'apprendre par essai et par erreur. Les machines, les boîtes noires cybernétiques, avaient une entrée, une sortie, et si elles faisaient une erreur, hop, ça bouclait et ça réaméliorait. C'est le modèle dit homéostatique, hein, donc qui essaye de retrouver un équilibre. Alors, bien sûr, ce n'est pas une machine qui est une boîte noire, c'est des milliers de machines entre les deux. Et donc, le monde est un monde d'échange d'informations. Et quand quelque chose ne va pas, il y a une boucle de rétroaction qui va faire changer ça. C'est ce qui a été fait, en fait, avec un des premiers systèmes intelligents, avec tous les guillemets nécessaires, c'est le suivi de balistique. C'est un radar de DCA qui serait capable de prédire le chemin d'un obus, d'un missile, pour pouvoir le faire exploser en vol. Ou prédire le parcours d'un avion pour être capable de lancer une DCA dedans. C'est une des grandes études qui a été menée pendant la guerre et qui, justement, utilise ce qu'on appelle une heuristique. Imaginez, on joue au ballon, vous me lancez un ballon. Je vais commencer à mettre mon cerveau qui va se mettre à bouillonner, puis à servir à savoir quelle est la parabole qui va être faite avec, en fonction de l'angle de départ, de la force avec laquelle ça a été... Non. Je vois le ballon arriver, je dis, il va arriver là, il va, et je l'ai. Voilà. Donc, je fais une heuristique qui s'adapte au fur et à mesure à la situation. Et donc là, on a bien les deux modèles, le modèle calculatoire et le modèle probabiliste, parce que si je suis pas très doué, moi, personnellement, je suis très peu doué avec les ballons, souvent, je les rate. Voilà. Mais on voit là qu'il y a plusieurs modes de raisonnement et qu'il n'y a pas que le mode conceptuel symbolique. Alors, en 1943, il y a deux psychologues qui inventent l'idée de neurone artificiel. Un neurone artificiel, c'est quelque chose qui va recevoir des entrées et calculer une sortie. Là, il y a un modèle très, très simple. L'entrée, c'est le neurone d'entrée, celui de cette colonne-là. Il est animé ou pas, on lui donne de l'énergie. Par exemple, si c'est noir, ça lui donne une valeur 1, et si c'est blanc, ça lui donne la valeur 0. Et puis, on a une influence faite par ce neurone B sur la sortie, faite par le neurone A sur la sortie. Cette influence est ce qu'on appelle un poids. C'est-à-dire, c'est 0,0 quelque chose. Le lien entre deux neurones est pondéré. Et si on change les valeurs de ces poids, alors on va changer les sorties. Alors là, quand on a deux neurones d'entrée et un neurone de sortie, c'est facile, ça peut faire les valeurs et ou de la logique booléenne. Les machines modernes de réseau de neurones ont des milliers de neurones comme ça, donc des milliers de poids à modifier et à modifier en permanence. On va y revenir. Elles vont être modifiées en fonction du résultat. S'il y a erreur dans le résultat, boucle de rétroaction, le fameux feedback. Voilà. Dès le début, ce modèle a été pensé pour la reconnaissance de forme, c'est-à-dire la perception. C'est un modèle perceptif. D'ailleurs, le premier s'appelle le perceptron. C'est une machine physique qui avait 400 cellules photovoltaïques, des potentiomètres qui calculaient les poids entre les divers neurones qui étaient là. Et voilà, c'est un modèle qui ressemble beaucoup au modèle de Friedrich von Hayek. Friedrich von Hayek est connu comme étant l'inventeur du néolibéralisme, mais c'était aussi quelqu'un qui pratiquait la psychologie sociale. Et donc, il étudiait un modèle. Son modèle, c'est la salle de marché. Et la salle de marché est un jeu de négociation permanent qui va permettre, à partir de plusieurs entrées, plusieurs entreprises qui proposent un produit, de trouver le meilleur prix à la sortie. Et donc, vous voyez, on est sur un modèle qui est influencé par aussi des modèles économiques, des modèles psychologiques généraux. Dès que ce perceptron est mis en œuvre, il est mis en œuvre avec un financement de la marine américaine, la Navy, et dès ce moment-là, les journaux commencent à parler « electronic brain », un cerveau électronique qui apprend lui-même, donc qui va modifier ses systèmes. Un outil qui apprend en faisant les choses. Donc typiquement, on a cherché dès le début à humaniser. On utilise le terme d'apprentissage. Vous avez remarqué que moi, j'utilise le terme d'entraînement, qui me paraît bien plus adéquat que de dire apprentissage. Alors, bon, le problème, c'est que Frank Rosenblatt va mourir jeune. Donc il ne pourra pas continuer son travail. Et les tenants de l'IA symbolique, donc ceux qui pensent par concept, qui imaginent que les machines ont besoin d'avoir des concepts pour pouvoir agir, vont remporter la partie à partir du début des années 60. Hein, notamment, donc ils forment une équipe qui a beaucoup d'influence. Là aussi, on s'aperçoit, quand on fait un peu de sociologie des sciences, que les idées, c'est une chose, mais les personnes, leurs positions, leurs relations sont quelque chose de très important. Et par exemple, des gens comme McCarthy, c'est quand même celui qui, outre avoir créé le mot intelligence artificielle, est aussi celui qui a inventé l'informatique en temps partagé, c'est-à-dire le fait de pouvoir avoir une machine qui était utilisée pendant quelques millisecondes par une personne, pendant quelques autres millisecondes par une suivante, donc qui rendait les ordinateurs, même centraux, disponibles à plein de terminaux en même temps, en simultané. Donc c'était des gens importants. Et eux donc, s'opposent au modèle connexionniste, ils veulent pas cette idée de l'adaptation, ils vont capter la majeure partie des crédits, donc ils vont se développer à partir des années 60. Penser, c'est réagir au monde, mais c'est aussi posséder des symboles, être capable de construire à l'intérieur de son cerveau des symboles. Là aussi, on voit bien que, j'y reviendrai dans ma toute conclusion, mais derrière l'intelligence artificielle, il y a tout un débat sur qu'est-ce que c'est que penser pour un humain. C'est quoi l'intelligence humaine? C'est quoi notre modèle de pensée, hein? Les uns appellent neurones, c'est pas pour rien. Les autres parlent de symboles, c'est pas pour rien. Enfin, tous ces éléments qui sont des éléments de... Bon, voilà, en fait, on ne sait pas trop comment on pense et pourquoi on pense. Donc, on a des idées sur notre pensée et on les applique à des modèles mécaniques en se disant, une fois que je sais faire un modèle mécanique qui s'approche de mon idée, ça veut dire que mon idée correspond bien à la pensée. Voilà. Alors, là, c'est une photo de McCarthy qui va créer un langage pour l'intelligence artificielle. Là aussi, à partir du moment où on a séparé le matériel du logiciel, ça c'est dès 1946, le premier calculateur, l'ENIAC, lui, il était câblé. Hein, d'ailleurs, on a des tas de photos où on voit des femmes, c'est un métier de femme, ça, le calculer, qui allaient câbler, et après, on a séparé le matériel du logiciel. Donc, on pouvait créer des langages logiciels. Et qui dit des langages logiciels dit se rapprocher de l'intelligence humaine. Le terme langage n'est pas du tout innocent, alors qu'en fait, il s'agit d'un code. Dans les années 80, cette intelligence symbolique va créer tout un secteur qu'on appelle l'ingénierie des connaissances. C'est-à-dire, on va essayer de créer des graphes, un peu comme celui-ci, qui vont relier les divers éléments qu'on connaît du langage avec des règles simples, si, alors. En empilant toute une série de règles simples qu'on a demandé à un expert de verbaliser, souvent l'expert, il ne sait pas pourquoi il est expert. Il sait des choses, mais il ne sait pas forcément les expliciter. Et donc, on avait tout un travail de prendre des experts, les mettre dans une pièce et leur dire « Bon, mais alors, tu dis ça, pourquoi tu dis ça? Quelle est la raison qui fait que dans ton métier de géologue, de médecin, de tout ça, dans le métier qui est le tien, comment je fais un système expert en ayant beaucoup d'expertise accumulée ?» Alors, on a eu des systèmes comme MISIN pour le diagnostic médical des maladies du sang ou Prospector, qui permet d'étudier des cartes géologiques et l'expert dit « Oui, mais là, vu la faille, vu ceci, il risque d'y avoir des minerais intéressants. » On raconte d'ailleurs que tout l'argent investi dans l'ingénierie des connaissances a été remboursé par le fait qu'un système expert géologue, je crois que c'est Prospector lui-même, a découvert un minerai, je crois que c'est de l'antimoine, quelque chose comme ça, à un endroit qui a remboursé toutes les choses investies. Alors, pour arriver à faire des inférences, c'est-à-dire à faire des raisonnements sur des concepts ou sur des si alors mis en place par un expert, pour avoir un moteur d'inférence, il est utile d'avoir des réseaux sémantiques. Et donc, on va s'engager à ce moment-là à essayer de prendre tous les mots du langage et à essayer de créer le réseau sémantique dans lequel chaque mot du langage, là, la pomme, il y a une partie qui renvoie au monde des fruits, il y en a qui partie, quelle est l'origine de la pomme, quelle est sa structure, le pépin. Et donc, on va mettre en lien tous les mots. Là, on n'a qu'une partie concrète. Après, il y a la pomme d'Adam, il y a Adam et Ève. Essayer de créer un langage sur le langage. Et ça, c'est un processus qui est voué à l'échec. C'est-à-dire, le langage, il est auto-explicatif. Vouloir créer une autre auto-explication du langage qui serait inscrite dans une mémoire d'ordinateur, c'est vrai, quand on regarde, c'est un peu voué à l'échec. Après, on peut avoir quand même des tas de choses intéressantes, des règles intéressantes qui vont pouvoir servir, mais bon. Et donc, ça va amener le retour du connexionnisme. Fin des années 80. Alors, comment on s'y prend ? Eh bien, en fait, on invente un algorithme. Donc, c'est Françoise Fogelmann-Soulier, c'est une Française, qui met au point un algorithme dit de rétropropagation du gradient, c'est-à-dire comment on change les poids, ces fameux poids dont je vous parlais tout à l'heure, de liaison entre deux neurones, à partir d'une évaluation de la sortie. Si la sortie est bonne, on renforce les poids. Si elle est mauvaise, on diminue les poids. Enfin, donc, on a un phénomène comme ça où on va réinscrire les poids en permanence. Si c'est un réseau totalement interconnecté, on ne peut pas penser qu'on n'aura jamais une machine assez puissante pour refaire tous les poids. Donc, on va faire des réseaux en couches. On a plusieurs couches et là, ça diminue le nombre de liens puisque les liens sont uniquement entre deux couches. Ils sont nombreux, hein, n'oublions pas. C'est donc, ça a besoin d'une puissance de calcul énorme. Mais on les réduit, c'est-à-dire on n'est pas ce qu'on appelle en informatique en ON2, c'est-à-dire en complexité qui est a priori inatteignable. Voilà. Et donc, c'est ça. Alors, moi, comme je vous disais tout à l'heure, je préfère dire entraînement qu'apprentissage, parce que l'apprentissage, j'apprends quelque chose, je conceptualise aussi quand j'ai appris. Je vais donc pouvoir déplacer ce que j'ai appris d'un domaine sur un autre domaine. Quand je m'entraîne, je sais répéter. Et parfois très bien, certainement mieux que moi. Alors, la question qui se pose, c'est quel est le lot de données ? Donc ça, c'est un dataset d'images qui vient de Tencent, les Chinois, l'entreprise chinoise Tencent. Donc, quel est le lot de données ? Et donc, quels sont les biais qui sont à l'intérieur du lot de données ? Si vous voulez reconnaître des visages en prenant uniquement des ingénieurs autour de vous, ils seront tous blancs. Et vous avez peu de chances de bien reconnaître les visages des personnes d'origine africaine. D'accord ? Donc, la conception du lot de données est importante et elle induit des biais. Mais il y a aussi un autre élément qui est ce qu'on cherche. Tout chercheur, mais quel qu'il soit, il a des idées dans sa tête, à lui. Et il va les chercher. Il va essayer de les retrouver. Donc, on a une projection du soi dans la machine d'inférence, dans le type de calcul qui est fait, dans le type d'entraînement qui est fait. Hein, parce que, bien sûr, il n'y a pas un modèle d'entraînement. Il y a c'est souvent une cuisine. On fixe des poids à l'origine, on les change, on a l'algorithme qui les change un peu plus, un peu moins, en fonction de ci, en fonction de ça. C'est toute une cuisine. J'aime bien le terme cuisine parce que d'abord, j'aime beaucoup cuisiner. Et puis parce que c'est pas, ça ne s'écrit pas. Et donc, derrière, ça ne s'explique pas forcément. Pourquoi deux personnes font le même plat à partir de la même recette, mais à la fin, ça peut être très bon ou très mauvais. C'est parti avec la même recette. Parce que tout simplement, il y a quelque chose qui ne s'explique pas. Et c'est un des deuxièmes problèmes de l'IA connexionnisme, c'est qu'elle n'est pas capable d'expliquer pourquoi elle fait les choses. Alors, une des règles, c'est qu'on passe du texte au vecteur. Alors, en fait, on dit dans la presse que ChatGPT, il choisit le mot qui suit. Non, il choisit le token qui suit. Il découpe en fait la phrase, la question qu'on peut avoir posée à ChatGPT, en token. Token, c'est un ensemble de 3-4, en général 3-4 lettres, y compris les espaces. Alors, souvent, les tokens commencent par l'espace. Hein, donc, ça va permettre ça de faire les déclinaisons. Les déclinaisons de genre, les déclinaisons de nombres pour les verbes, enfin, toutes ces choses-là, justement parce qu'on ne va pas être associé à des mots complets, on va faire de la probabilité sur des n grammes, c'est-à-dire des ensembles de n lettres, n étant en général 3, 4, etc. Et ça va être réduit dans un vecteur, c'est-à-dire un ensemble de coordonnées. Un vecteur, c'est un ensemble de coordonnées. Et donc, ce que va faire la machine, c'est des comparaisons de vecteurs. Et ça, elle peut le faire quand même beaucoup plus vite. Une fois qu'elle a transformé des choses en vecteurs, elle va très, très vite pour comparer des vecteurs. Et donc, par exemple, quand elle a un début de phrase, le vecteur de début de phrase peut être comparé à toute une série de complétions de phrases et jusqu'à trouver celle, la complétion qui va être la plus probable. Donc, on est dans un modèle probabiliste. Alors, les applications, maintenant. La première, peut-être la plus fabuleuse, c'est la traduction automatique. Là, on a un lot d'entraînement. Par exemple, tous les lots du Parlement européen, où chaque article est traduit en multiples langues et que c'est un langage très simple et codé, c'est un lot d'apprentissage absolument énorme qui permet de calculer des vecteurs dans une langue, des vecteurs dans une autre, et de les comparer, et de les associer, puisqu'on est sur un mode associatif. Vous vous en servez toujours, la traduction automatique, je suis sûr. Sinon, alors, moi qui suis éditeur, j'ai par contre des mauvaises nouvelles. C'est que les traducteurs, un peu comme tous mes travailleurs du CLIC tout à l'heure, ils commencent par balancer ça sur un traducteur automatique et après ils disent « je vais corriger ». Traduire, c'est pas ça. Traduire, c'est ça dépend de la langue cible, la langue dans laquelle on traduit, pour nous le français. Et on va essayer de comprendre ce que veut dire l'auteur pour le mettre des mots en français qui disent la même chose. Ce qui n'est pas tout à fait le même raisonnement que de dire on va associer un vecteur. Et donc, après, c'est très difficile de modifier quelque chose qui a déjà été fait. Donc, quand on a un texte, et vous allez être en humanité numérique, j'imagine que vous allez faire de la traduction automatique, je pense que c'est bon, enfin, ça me semble dans les perspectives à vous. C'est très difficile de changer un texte qu'on a sous les yeux, et même s'il n'est pas clair, parce qu'on on finit par le comprendre. Ou même, des fois, pire, on lit la langue source quand on la connaît, on la lit derrière et on comprend parce qu'on lit le fait que c'est une traduction comme ça. Donc, il y a là une vraie question de société qui est, on vous dit qu'un métier comme le traducteur va disparaître parce que les machines vont le remplacer, et en même temps, quand vous regardez vraiment, vous apercevez que, autant moi je me sers tout le temps pour être sûr de comprendre ou tout ça, autant je vois bien que quand on fait de la traduction, c'est un vrai métier. Et c'est un vrai métier qui porte en lui-même un sens. D'ailleurs, le traducteur est un auteur du point de vue juridique. Médecine. Bon, médecine, il y a vraiment des applications absolument fabuleuses, surtout en reconnaissance des images médicales. Là, c'est un exemple du MIT. Il y a 4 ans entre les deux photos. On voit le cancer apparaître là, donc un œil humain pourrait le reconnaître et le traiter. Mais en fait, la machine l'a retrouvé dans les photos anciennes, ici. Et elle l'avait repéré déjà, alors que le médecin humain était passé à côté. Logique, hein, voilà. Donc, en médecine, on a vraiment des applications absolument enthousiasmantes, hein, quand même, de ce point de vue-là, pour l'aide au diagnostic, pour les analyses biologiques, etc. Par contre, je ne vous conseille pas de demander à ChatGPT quel va être le médicament que vous devez prendre en lui décrivant vos symptômes. Hein. Alors, arrivent les IA génératives, notamment génération d'images, de sons ou de vidéos. Bon, elles ont été entraînées sur des corpus énormes et elles répondent, elles prédisent en fait, à partir d'une suite de mots, d'un ensemble de mots, quelle va être la suite la plus probable à lui donner. Ça permet d'écrire tous les textes de ChatGPT. Je n'ai pas mis d'exemple parce que je sais que vous l'avez fait par vous-même et que bon, c'est souvent drôle quand on lui pose la question qu'il ne faut pas. Là, ce sont des exemples faits par Olivier Scheid, qui est un des auteurs de CEF Éditions et qui a travaillé sur, là en l'occurrence, c'est Midjourney, qui est un générateur d'images, en lui posant des extraits de textes d'auteurs classiques. Là, en l'occurrence, c'est la fameuse phrase de Lautréamont. Je ne sais pas si vous voyez. « Beau comme une rencontre fortuite sur une table à dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie. Hein, » c'est dans le... Et dissection, c'est un mot interdit dans Midjourney. Donc là aussi, l'ordinateur, enfin l'entreprise a interdit des mots pour éviter de créer des images qui soient vulgaires ou qui puissent entraîner des attaques contre Midjourney ensuite. Donc il l'a remplacé par table mortuaire. C'est assez beau, quoi. Et donc il y a dans un de ces articles de blog toute une série d'images générées comme ça. Est-ce qu'il faut y croire? Et c'est là qu'on a, bon, tu sais, la limite de la panique morale, elle est là. Est-ce que cette génération d'images ne va pas nous amener des fake news? Là, en l'occurrence, vous savez que le festival Burning Man cette année a été victime d'une inondation. Et c'est un David Satori, un photographe et tout ça, qui a fait toute cette série d'images en disant c'était quand même la cata à Burning Man. Bon, bien sûr, c'est des images fabriquées. On voit bien quand même. Mais, on peut y croire aussi. Voilà. Donc, en fait, on va se retrouver avec des tas d'images qui vont renchérir sur le zeitgeist, l'esprit du temps, les choses qui se disent. Voilà. Et tout le monde était content, en fait, que ces riches qui allaient à Burning Man prennent une claque de pluie. Voilà. Et en fait, pour les plus anciens des burners, c'est-à-dire les gens qui vont à Burning Man, ils se sont dit « Ah ben voilà une vraie expérience vécue comme celle que nous espérons avoir quand on vient dans une cuvette au milieu du désert. » Ah, j'aime bien cette petite vidéo. C'est beau comme une promo, hein. C'est le couplage, donc c'est ce qui vient d'être fait par ChatGPT entre un générateur d'images comme DALL-E, en anglais DALL-E, et ChatGPT. Donc à partir des questions, des prompts, ça les prompts, pouvoir générer des images, adorable, n'est-ce pas, petit hérisson comme ça. Pour raconter une histoire le soir, etc., etc. Et donc, là aussi, il y a un côté fabuleux, mais en même temps, un côté déjà vu. Parce que moi, j'ai eu cette impression de... Bon, ce type d'image, voilà, on est dans l'ordre du déjà vu, et c'est quand même assez extraordinaire. Alors, maintenant, il y a des vidéos. On peut générer des vidéos. En Chine, pour 1000 dollars, vous pouvez vous payer un clone qui va faire des choses, du travail d'influenceur pour vous sur TikTok. Et donc, qui va pouvoir faire que vous allez influencer sur TikTok toute la nuit. Donc, voilà. Et en fait, ça, en une heure, je crois qu'elle a remboursé les 1000 dollars qu'elle avait fait, puisqu'elle est influenceuse payée au pourcentage des ventes. Voilà. Donc, attendez, par rapport à ça, on voit encore des hésitations, des choses comme ça, mais on peut penser que ça ne va pas durer. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour savoir si on a affaire à une véritable image ou une véritable vidéo, ou alors à un truc fabriqué par une IA? Alors, il y a des gens qui disent on va faire des systèmes qui vont repérer si c'est une IA. 30% ils se plantent. Donc, de toute façon, ils n'y arrivent pas. Donc, si on n'y arrive pas par la technique, on y arrivera peut-être par la politique. C'est-à-dire d'obliger les gens qui utilisent des images fabriquées avec un générateur d'images de le mettre, de l'indiquer. Voilà. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, on se calme. Alors l'image, c'était bien censé être la preuve, n'est-ce pas? On a toujours des preuves par l'image. Quand même, un match de foot de l'équipe de France. Voilà. Mais... Donc voilà. Alors, je l'arrête, mais quand même, la rapidité d'un match de foot, ça va très très vite. Et on voit qu'on peut truquer l'image du match de foot, pas en direct. Il nous reste encore la chance du direct. C'est d'ailleurs la magie du foot. C'est unité de lieu, unité de temps, unité d'action. Ça reste tragique. Bon. Mais... voilà, on s'aperçoit que la preuve par l'image, ça va devenir de plus en plus compliqué à gérer. Donc là, encore une fois, il faudra imposer, et c'est un rôle politique, j'espère que... c'est un peu en projet dans la directive sur l'IA qui est en préparation au niveau de l'Union européenne. Donc, ça devrait arriver. Ah non, non, c'est pas celle-là que je veux passer, c'est celle-ci. Alors le problème, c'est que ces robots-là sont des robots de guerre. C'est sympa de les faire danser, hein. Ça plaît à tout le monde, hein. Mais c'est des robots qui ont été fabriqués pour être des soldats sur le champ de bataille. Donc on a là toute une, voilà, un peu série d'exemples que je voulais vous montrer. C'est quand même fascinant, non? Et inquiétant. Eh ouais. Est-ce que ça mérite une panique morale? Ben, on va voir maintenant. Les autres applications. Dans les moteurs de recherche. Les moteurs de recherche, jusqu'à présent, ils nous donnaient une liste de documents et il fallait à nous aller regarder dans le document pour trouver la réponse à notre question. Hein? Si on rajoute une IA, ChatGPT pour Microsoft, Bard pour Google, donc chacun a sa propre IA qui a été entraînée sur son lot de données. C'est certain que l'entraînement sur celui de Google, il doit être pas mal. Hein. Ils ont de la donnée. À ce moment-là, on va avoir un moteur de réponse et non plus un moteur de document, quelque chose qui va essayer de nous trouver directement la réponse, quelque part de la choisir pour nous aussi. C'est là qui est peut-être le piège. Et puis de nous faciliter la vie, parce qu'on va... on va faire confiance. C'est ce qu'on appelle les médias de synthèse. Les médias de synthèse, c'est en fait, à partir du moment où on va créer un média, par exemple Google ici, je lui ai posé la question, comment changer un pneu de vélo? Et j'ai la réponse. Alors, il y a encore le lien du blog Cyclofix qui fait ça, mais a priori, il me donne la réponse. De même, quand vous vous interrogez sur une personne, il y a tout de suite une page d'information sur la personne, sur le côté, qui vient de Wikipédia. En fait, elle ne vient pas directement de Wikipédia, mais à l'intérieur de Wikipédia, du système qui s'appelle Wikidata, qui est donc une manière de mettre des données structurées, date de naissance, ça, pas seulement du texte comme Wikipédia, mais des données structurées. Et avec ces données structurées, c'est plus facile pour un média informatique comme Google de fabriquer directement des réponses. C'est aussi de faire des résumés, repérer en fait... Avant, il repérait des articles, des documents, des pages web. Maintenant, il va repérer dans la page la fraction de page qui correspond à notre demande et éventuellement faire même un résumé, comme c'est là. Alors, un des médias de synthèse, c'est Lui, c'est un présentateur sportif chinois très connu sur TikTok et sur d'autres médias sociaux. Et non, il n'est pas sur TikTok, il est Taobao. Et il a fait un clone, comme tout à l'heure, qui est capable de présenter les résultats sportifs à sa place. Parce que les résultats sportifs, c'est très structuré. Hein. Qui a gagné, qui a marqué, qui a ceci, qui a cela. Et donc, il suffit juste d'avoir un générateur de texte et un générateur d'images vidéo, comme on a vu tout à l'heure, et il donne les résultats en permanence et toute la nuit. C'est rentable. Alors, le problème, c'est qu'en IA, on parle d'hallucination. Ah. Ça n'a rien à voir avec les hallucinations psychédéliques, malgré les images. Ça a à voir avec le « j'hallucine ». Vous savez, la nouvelle phrase qui est rentrée dans le Robert cette année, un nouveau mot qui est rentré dans le Robert, « j'hallucine » que vous utilisez tous, vous utilisiez toutes. Parce que bien sûr, une fois que c'est rentré dans le Robert, on s'en sert moins. Donc, qui est l'idée que, en fait, le système va nous donner une réponse, même s'il ne connaît pas, il va inventer. Il est là pour produire du texte, il est génératif, il n'est pas là pour vérifier ce qu'il dit. Il va produire du texte et le produire de manière crédible. Il ne cite pas ses sources, il ne nous dit pas où il a lu que ce qu'il raconte, il ne nous dit pas d'où ça vient, donc il va inventer. Et ça a des effets dangereux. Hein. Donc, je sais plus, il y a eu un exemple comme ça où il a poussé quelqu'un au suicide, justement, parce qu'il demandait ce qu'il fallait faire pour sa santé. Heureusement, la personne a été assez sage pour ne pas écouter l'intelligence artificielle. Mais bon, voilà, donc on a des hallucinations, et en même temps, il y a des chercheurs, comme cet ingénieur de Google, qui dit « Mais non, moi, mon IA, elle est sentiente, elle sent les choses ». Non, c'est pas incarné, une IA. Ça reste un système de génération de textes, d'images, de vidéos, fascinant, comme on vient de le voir, mais ça reste ça, et c'est important de le savoir. C'est ça qui va nous protéger d'une panique morale. C'est que savoir comment ça fonctionne, savoir qu'est-ce qu'il y a comme argent que se font les gens aussi avec ça. Alors, on nous parle aussi qu'on va avoir un nouveau métier qui serait l'ingénierie du prompt. C'est un peu difficile d'appeler ingénierie à un système qui ne sait pas expliquer ce qu'il fait. A priori, c'est le contraire exact du métier d'ingénieur. Mais bon, et là, voilà, on lui pose la question, quand est-ce que la France a offert une tour de télé à Vilnius, en Lituanie ? Il va répondre, il va inventer. La France n'a jamais offert quoi que ce soit. Mais selon la manière dont vous avez posé la question, vous allez obtenir un résultat qui est cohérent linguistiquement. Absolument pas avec le monde réel. Donc, on voit bien comment on peut se servir de ça pour fabriquer des fausses nouvelles, des nouvelles fabriquées, fake news et nouvelles fabriquées. Après, l'autre aspect, c'est pour arriver à ça, pour arriver à entraîner des IA, il faut une puissance de calcul fabuleuse. Alors, on en a déjà un premier exemple, c'est NVIDIA qui vient de rentrer en bourse. NVIDIA, c'est celui qui fabrique les chips graphiques, donc ceux qui vont très très vite, qui sont faits pour les cartes de jeu, les choses comme ça, et qui sont utilisés par les gens qui font de l'entraînement sur les intelligences artificielles. C'est un vieux principe. Pendant la ruée vers l'or, les seuls qui ont vraiment gagné de l'argent, c'est les marchands de pioches et de pelles. Mais bon, voilà. Après, ça veut dire aussi que pour entraîner une IA, il faut beaucoup de puissance de calcul. Qui a la puissance de calcul ? Google, Amazon, Facebook, tous les gens qui ont du cloud, qui ont travaillé le cloud dans les années précédentes. Et vous remarquez qu'il n'y a pas de cloud européen. Donc, il n'y aura pas d'IA européenne. C'est un vrai problème de ce qu'on appelle la souveraineté numérique. Ah oui, les universitaires n'ont pas les moyens. Pour entraîner une IA, il faut acheter du temps de calcul sur les grands clouds. Et vu la puissance de calcul nécessaire, ce n'est pas en université qu'on y arrivera. Voilà, alors on peut être sidéré. C'est vrai qu'on est dans un état de sidération. Est-ce que pour autant, dans cet état de sidération, il faut sombrer dans une panique morale? Je ne le pense pas. Mais il faut être capable de réfléchir à que vont devenir le travail, l'éducation, les nouvelles, les informations, etc. etc. Le premier qui est considéré aujourd'hui, c'est la question du remplacement du travail par les IA. Problème, c'est qu'en fait, on a développé toute une partie du travail que l'anthropologue David Graeber appelle les « bullshit jobs ». Je ne traduis pas, allez. Donc, c'est aussi ceux qui sont été les travailleurs en première ligne pendant le confinement. Tout cela, c'est les jobs les moins bien payés. Et donc, on s'aperçoit que à un moment donné, il y a une perte de sens du travail. C'est pas pareil de produire quelque chose et de servir à rien, d'être juste là pour faire tourner la machine, quoi. Et donc, il y a à la fois une valorisation du travail des services, qui n'est pas prêt d'être remplacé par une IA, et une dévalorisation de toute une série de travaux d'accompagnement de la production. Et c'est ceux-là qui sont les plus menacés par les IA. Donc, la panique morale, elle vient, il y a bien des gens qui ont un intérêt à dire « c'est mon métier, souvent bien payé, très qualifié, mais inutile, qui risque d'être remplacé par des IA, et pas les métiers de services utiles qui peuvent être accompagnés par des IA, comme on l'a vu tout à l'heure, par exemple, en médecine. » Voilà. Ah, j'aime beaucoup cette phrase d'Aristote, « quand les navettes marcheront tout seules, viendra enfin l'âge d'or. » Il n'avait pas prévu que ça serait l'âge du chômage. Sacré Aristote. Quant à Keynes, dans les années 30, il disait « oh là là, les progrès techniques servent à réduire le temps de travail. » À la fin du XXe siècle, 15 heures par semaine. Un truc intéressant. La grève des scénaristes de Hollywood qui s'est terminée cette semaine. Première grève contre les IA. En fait, qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Ça montre bien quelque chose. Ils ont obtenu qu'il n'y aurait pas d'IA pour écrire les scénarios, mais aussi, ça c'est important, un patron ne pourra pas utiliser une IA pour faire le script général d'une série ou d'un truc de production, et ensuite demander au scénariste de faire les vrais dialogues, d'avoir le touch feeling humain. Parce que dans ce cas-là, ça serait le studio lui-même qui a interrogé l'IA, qui aurait les droits d'auteur, et plus les scénaristes. Enfin, le dernier point qu'ils ont obtenu, c'est que leur production, leur scénario, ne pourra pas servir à entraîner d'autres IA, c'est-à-dire penser pour l'avenir. Voilà. Donc, c'est quand même un élément assez important qui a été obtenu ici, et on voit bien que encore une fois, ce n'est pas d'être en panique morale, c'est juste de fixer des règles de régulation. En IA, en éducation, excusez-moi, je fatigue, en éducation, la première chose qu'on s'est posée, c'est « ouais, les étudiants, on les connaît, ils vont faire tout leur boulot par ChatGPT, et puis ils vont nous rendre des devoirs impeccables, on ne pourra pas les noter. Catastrophe !» Bon. Apprendre, ce n'est pas ça. Voilà. Donc, ce n'est pas l'évaluation. Par contre, ça remet en cause les modes d'évaluation, c'est sûr. C'est, oui, effectivement, s'il y a une possibilité de bypasser pour avoir la moyenne avec un ChatGPT, il y a plein de gens qui vont le faire, qui ne vont pas apprendre parce que la bière est meilleure. Mais, bon, c'est peut-être la faute de l'éducation, ça. C'est peut-être parce qu'on fait des choses entre en grand groupe, parce qu'on n'évalue pas les gens individuellement, on ne les rencontre pas individuellement, on ne leur pose pas des questions individuelles, on ne les fait pas plancher sur des livres qu'ils viennent présenter chacun leur tour, parce qu'il n'y a pas assez de profs, parce qu'il n'y a pas assez, etc. Donc c'est plutôt comme ça qu'il faut poser le problème, et ce n'est pas du tout de rentrer dans une panique morale sur l'évaluation. Moi, j'ai été prof, je vous avouerai que la chose qui me déteste, que je détestais le plus dans l'enseignement, c'est l'évaluation. Bon. J'ai pas sauté une diapo, si, si. C'était une... Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, l'autre grande question qui se pose, c'est est-ce que les producteurs de contenu vont pas se faire remplacer par des IA? Alors, on a vu des exemples, hein, TikTok tout à l'heure, là. Les influenceurs remplacés par les médias, par des IA. L'UNESCO précise bien dans son rapport que l'UA peut produire du contenu, mais elle ne peut pas créer. Et puisqu'elle va faire qu'en fait répéter à partir du lot de données qui lui a servi à faire son entraînement. Donc ça ne crée pas des nouvelles idées non plus. Ah, c'est un peu compliqué quand même, parce qu'il y a des chercheurs qui posent des questions bien foutues à des IA et que ça leur ouvre des pistes. Ils disent « Ah tiens, ça, j'y avais pas pensé ». Encore une fois, on n'est pas dans le blanc et noir, hein. On va être dans un modèle de régulation. Là, je pense qu'on est un peu dans le blanc et noir. La technopolis, c'est-à-dire le fait qu'on va surveiller les gens et les contrôler. Hein. La reconnaissance faciale par des IA permet, dans les pays où elle est autorisée, en France c'est interdit grâce à la CNIL, de reconnaître quelqu'un quand il marche dans la rue. En Chine, c'est comme ça. Il y a des caméras partout, et donc, qui dit caméra dit des lots de données absolument énormes, hein, et donc des lots d'entraînement de leurs IA. Et d'ailleurs, la Chine a offert des tas de caméras au Mozambique pour pouvoir entraîner sur les personnes de couleur. Donc ils ont cette logique. En fait, derrière la vidéosurveillance, il y a l'entraînement des IA. Ça pourra servir à autre chose que strictement vidéosurveiller les rues. Voilà. En France, pour les JO, on vient d'avoir une loi d'exception qui autorise des logiciels d'intelligence artificielle d'évaluation du comportement des gens. Et la semaine dernière, la ministre des Sports a dit... Ah, si ça marche bien pour les JO, on va continuer après. Eh oui, c'est le principe. Hein. Mais elle dit ça avant d'avoir évalué. Si, alors, mais en fait, on sait très bien qu'à chaque fois qu'il y a une expérimentation de surveillance, de contrôle qui est mise en place, elle est prolongée quoi qu'il arrive. Sauf quand la CNIL réussit à l'interdire, comme la reconnaissance faciale à Nice. Ou la reconnaissance faciale, la reconnaissance par le toucher des doigts à l'entrée des cantines des collèges. Tout ça, c'est... Bon, ça veut dire qu'on a vraiment besoin d'avoir des institutions. On ne s'en sortira pas par la technique, mais par un travail institutionnel. Alors, il y a la question des armes autonomes. Est-ce qu'une arme peut décider toute seule de ce qu'elle va tuer ou pas, de comment elle va agir ou pas? Et surtout, est-ce que d'avoir des armes autonomes, c'est-à-dire la capacité de faire la guerre sans prendre de risques, n'est pas une incitation à faire de plus en plus la guerre, avec des effets secondaires sur les populations civiles, mais bon. Alors voilà, j'arrive à ma conclusion, ça tombe bien parce qu'il est presque l'heure. Alors, la question de l'éthique de l'IA. On en entend beaucoup parler aujourd'hui de l'éthique de l'IA, et on entend parler surtout... par les gens qui font de l'IA. Ça ne serait pas une régulation qui viendrait de l'extérieur, qui demanderait aux gens de l'IA, expliquez-nous, dites-nous, et on va trancher. Mais c'est, je vous propose de gérer entre nous, les grands de l'IA, et de vous faire des propositions de loi sur ce qu'on trouve qui serait correct, en fait, qui serait correct pour empêcher que les concurrents qui viennent ne nous grignotent les orpions. Donc on est dans une situation qui n'est pas récente. La première fois que ça s'est passé, c'est en 1976 à Asil Omar, où il y a eu une conférence de toutes les entreprises de biotechnologie en disant « C'est trop compliqué pour vous, les politiques, les journalistes et les choses comme ça, les sociologues, vous ne comprenez pas ce qu'on fait, donc on va gérer nous-mêmes ce qui est les limites à ne pas dépasser. » Ça n'a jamais marché, bien sûr. Donc on a là un problème, l'éthique, bon, voilà. Une des règles qu'on peut imposer, les critères qu'on peut imposer, c'est l'explicabilité. et l'indication formelle qu'une image, qu'un texte a été produit par une IA. C'est deux choses qu'on peut exiger et que, attention, l'explicabilité, on ne l'a pas. Aucun système d'IA ne peut expliquer ce qu'il fait. Enfin, d'IA connexionniste, hein, puisqu'elle est probabiliste. Alors, les objectifs, il y a des critères proposés par l'UNESCO, mais globalement, le premier critère qu'ils mettent en avant, c'est est-ce que les IA respectent les droits de l'homme ? Les droits des humains, les droits humains. Alors, régulation, bon, régulation, on a eu des choses, mais maintenant, derrière la régulation, il faut se poser la question de la sanction. Il n'y a pas de régulation s'il n'y a pas une sanction. Hein, d'ailleurs, nos amis des médias sociaux, ils commencent vraiment à réagir depuis que l'Europe peut leur imposer des amendes qui sont assez conséquentes. Alors, le problème de la régulation politique, et ça, tous les gens des techniques contemporaines, des techniques modernes le disent, c'est trop lent, ça ne va pas assez vite. Ben oui, oui, la société ne va pas assez vite, c'est eux qui vont trop vite. Donc, au nom de leur vitesse, il faudrait que la société n'ait pas de droit de regard. Et ça, c'est un vrai problème juridique et politique, quoi. C'est aussi un problème géopolitique, parce que l'IA est devenue un enjeu stratégique. Par exemple, les États-Unis veulent retirer de Chine toute la fabrication des puces, pour éviter que les Chinois apprennent sur des nouvelles puces qui seraient inventées aux États-Unis. Bon, c'est trop tard, ils savent inventer les puces de la même manière que les autres. Mais voilà, derrière, on a la question des armes d'IA, on a toute une série d'aspects. Toute régulation aussi a d'emblée une échelle mondiale. Quand l'Europe écrit le RGPD, le DMA, le DSA, ça a une conséquence sur les États-Unis. Et quand les États-Unis, grâce à mon héroïne Lina Khan, vont sanctionner Amazon, ça aura des conséquences en Europe et j'espère dans le monde entier. Donc cette question géopolitique se calcule autour de la notion de souveraineté numérique. Est-ce que l'Europe est capable de créer du cloud et est capable d'avoir des logiciels pour exploiter les données à la hauteur ? Et je terminerai sur une réflexion peut-être un peu plus... Je me demande si on n'est pas en train de vivre une blessure narcissique. L'humain vivrait une blessure narcissique nouvelle. Ça y est déjà arrivé, hein, quand Freud découvre l'inconscient, mais des mots, mais en paroles, ce qu'est l'inconscient, et qu'on comprend ce que disait Rimbaud déjà, « je est un autre », qu'il y a quelque chose qui nous dirige et qui n'est pas de l'ordre de notre volonté, c'est une grosse blessure narcissique, bien sûr, pour la conception de l'homme. Là, on est dans un phénomène nouveau. D'un côté, on remet en cause cette idée que seuls les hommes parlent, ou plutôt que seuls les humains ont une communication qui leur permet de créer des concepts. Restons plus modestes. Or, on est en train de s'apercevoir que toute une série d'animaux, y compris des animaux étranges comme le blob, sont capables de créer des concepts. Pas du langage, on n'en est pas là, mais suffisamment de concepts pour échanger, communiquer entre eux sur des événements. Bon. Donc ça, on s'aperçoit que l'homme est une des parties du vivant, en fait, et qu'il n'est pas quelque chose qui est au-dessus du vivant, séparé du vivant. Et d'un autre côté, on s'aperçoit que les machines deviennent capables de parler, d'inventer des images, d'illustrer, d'imiter, enfin... Et donc, l'humain se dit, mais c'est quoi ma place, là, dans cette affaire ? Parce que, depuis Descartes, je pense, donc je suis, je suis le maître de la nature parce que je suis le seul à avoir accès au langage. L'humain est maître du monde. D'accord ? On est dans un moment de blessure narcissique et c'est assez intéressant peut-être de se servir de ça pour essayer d'évaluer les discours qu'on va avoir. Moi, je pense que ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est qu'il y a deux types d'outils qu'on peut avoir aujourd'hui. La question des paniques morales et se dire, ben, attends, ce qu'on nous parle là, est-ce que ce n'est pas une nouvelle panique morale qui ne serait pas sérieuse ? Et puis réfléchir au sens que ça a, au sens profond que ça a pour notre humanité, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous reste qui est important dans la vie, notre vie d'humain, nos relations, notre projet société, notre volonté de vivre ensemble, notre protection de la planète, enfin toutes ces choses-là, et de ne pas réduire notre humanité à quelque chose de mécanique, de mécaniste, de dominant, de choses comme ça. Ça, bah oui, effectivement, les machines de ce côté-là, elles risquent d'être pas plus mauvaises que nous. Voilà. J'espère que vous saurez vous servir de ces outils-là. Je vous remercie de m'avoir écouté aussi longtemps.